Bonsoir, et je suis donc Trudy Bolter. Je suis professeure émérite de Sciences Po Bordeaux, mais aussi j'ai enseigné en art du spectacle dans le département du cinéma pendant une dizaine d'années, essentiellement en maîtrise recherche et en DEA du temps où il y en avait un. Et je suis chercheure en cinéma, j'écris, quelquefois je publie. Et je fais ces ciné-conférences Utopia Mola depuis quelques années déjà, toujours avec beaucoup de plaisir. Et cette fois, c'est la troisième ciné-conférence de l'année. Et il s'agit de deux films récents. Jackie, officiellement, est un film de 2017. Et vous savez peut-être que l'actrice Natalie Portman a déjà été nommée pour un Oscar du meilleur performance, alors que le reste du film n'a pas été mentionné. Alors, ça a été un grand plaisir de préparer cette ciné-conférence parce qu'il s'agit d'un cinéaste que je ne connaissais pas et que j'adore. Et il est exceptionnel, je trouve, tant sur le plan formel, sur le plan du contenu, et j'ai eu des surprises en faisant ma recherche. Donc, chacun sait que ces deux films sont appelés des anti-biopics, c'est-à-dire pour les distinguer téléfilms, séries, comme par exemple, il y en a, si vous avez Netflix, les Kennedy, et très souvent des biopics, des films dits biographiques de différentes personnalités, personnages d'histoire, etc. Mais au fait, par anti-biopic, je crois qu'on veut dire, on a appelé Neruda une biographie de l'imaginaire. Et on a signalé le fait qu'au lieu de porter le personnage principal du berceau à la tombe, ce qui peut arriver dans un film comme La Môme, ou même dans un film sublime, Le Gainsbourg de Johannes Pfarr, ce film se préoccupe d'une période assez courte dans la vie de Neruda, la période dans laquelle il se prépare, il écrit son grand œuvre, le Chant général, et il se prépare à quitter son pays sous les menaces qui sont tendues par le gouvernement. Mais moi, quand les gens disent anti-biopic, moi, je préfère voir dans cela qu'ils veulent dire que c'est très, très bon. Et parce que n'importe quel biopic, quelle que soit la période chronologique qu'il suit, peut être magnifique. Quoique je suis d'accord que les films, surtout les films sur les écrivains qui ont été récemment créés, sont en partie très très bons parce qu'ils traitent de périodes courtes dans la vie de l'auteur. Je peux citer Bright Star de Jane Campion sur le poète Keats, ou Shakespeare in Love, ou The Hours sur Virginia Woolf. Ils s'alignent sur une petite partie de la vie du personnage, mais évoquent en plein le caractère de l'artiste. Et voilà, donc je ne pense pas que le film Neruda soit tellement différent pour cette raison-là, parce qu'il traite de la période courte de la vie. On a vu ça chez Spielberg, avec son Lincoln, avec le pont des espions, tout ça. C'est des biopics qui traitent d'une petite un passage dans la vie de quelqu'un, et pas de toute la vie, c'est plutôt la sphère des documentaires, ou des films télévisés, des séries. Alors, mais ce que j'ai identifié, parce que j'ai pu, Larraïne a 41 ans, et j'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où j'ai pu avoir les DVD des cinq longs métrages avant Neruda et Jackie. Et il y a deux choses qui marquent ces films, qui sont vraiment l'œuvre d'un auteur. Il y a la figure de l'artiste qui est quand même permanente chez Larraïne et ne surgit pas seulement dans Neruda. C'est quelque chose, une préoccupation permanente, même si c'est un artiste un peu pervers ou un artiste qui ne se trouve pas ou un artiste du mal. Deuxièmement, il a une approche du biographique qui est un peu particulière, très ludique, et qu'on va voir pas seulement dans Neruda, dans d'autres films. Alors, le film que j'ai particulièrement adoré et que j'ai trouvé le plus proche de Neruda est un film qui s'appelle Fuga. C'est le premier long métrage de Larraín qui ne fait pas seulement des films d'art, mais qui fait des films publicitaires, des clips vidéo et autre chose. Je crois qu'il a fait 13 ou 15 films de toutes sortes, mais dont les films longs et les longs métrages d'art artistique, il n'y a que 7, avec Jackie compris. Donc 5, et le tout premier s'appelle Fuga. Alors, qui est Larraín? Il appartient à une famille extrêmement riche et puissante. Son père était sénateur, sa mère ministre d'un gouvernement de centre droit. Et il a plein de frères et sœurs. Et l'une des premières choses qu'il a faites, c'est de créer une société de production qui s'appelle Fabula. Donc, je suppose qu'ils vivent de leurs films publicitaires. Et donc, tous les deux ans, un film sort, signé Pablo Larraín. Le premier s'appelle Fuga. C'est très difficile de trouver des informations parce que la plupart sont en espagnol sur ce film-là. Je crois que ça va changer très rapidement et tout va être traduit. Ce film a obtenu des prix dans 3 ou 4 festivals hispanophones, mais pas en France. Et il arrive qu'il était maltraité par les critiques chiléens, en partie parce qu'il y avait un scandale. Moi, je n'ai pas très, très bien compris parce que c'était en espagnol que je n'ai pas. Et il paraît qu'il y avait un scandale qui concernait son père, donc un puissant politique. Et cela a influé sur le jugement porté par les critiques. J'espère que je n'ai pas fait une erreur de traduction. Mais pour cette raison, on trouve facilement ce film, mais je n'ai pas vu dans les critiques au sujet de Neruda que l'on cite ce film, que je trouve être celui qui ressemble le plus à Neruda. Alors, l'histoire, donc, il concerne un artiste. Cette fois, c'est un musicien et pas un poète. Et il concerne un jeune homme qu'on voit quand il est bébé pour la première fois. Pas bébé, mais il a 13-14 ans. Il est très, très jeune. Et il est dans la piscine de sa belle maison et il entend des bruits, des coups. Et il monte, il grimpe sur la maison et il voit sa sœur, qui a un an peut-être de plus que lui, en train d'être violée. Et en plus, elle a été tuée. Cela se passe chez lui. Dans une des critiques à un webzine qui s'appelle Sens Critique, vous connaissez peut-être, on me raconte que c'est le père des enfants qui est en train de violer et tuer sa fille, ce qui donnerait une couleur politique, parce que nous savons que le père est ministre de la Santé de Chile. Et donc, ça serait un commentaire sur le côté immoral de la politique. Alors, la plupart des films de Larraín, enfin, tous les films de Larraín, se réfèrent en grand ou en petit à la dictature Pinochet et au malheur qu'ont subi le peuple chilien. Bon, c'est ce garçon qui s'appelle Eliseo Montalbán est vu pour la prochaine fois en grand adolescent ou jeune homme de 20-21 ans, très troublé. On voit qu'il y a quelque chose qui le perturbe, mais il a refoulé ce souvenir qui a inclus le fait qu'il regardait le placement des gouttes de sang sur le papier de partition et qu'il a créé une mélodie à partir de cet espacement. Il a composé une grande œuvre qui s'appelle La Rhapsodie macabre. Et grâce aux connexions de ses parents, on monte au théâtre de la ville ce morceau. Et la pianiste de qui il est amoureux, elle meurt tout d'un coup. Et ce qui le fait perdre la raison, mais encore plus. Il va dans un asile qui tombe sous l'autorité de son père, où il est maltraité. On lui donne beaucoup de chocs électriques. Et il trouve un ami qui est Alfredo Castro, l'un des acteurs qui revient. Et je crois qu'il a été dans 5 des films de La Raïne. Et il joue un prisonnier qui veut s'évader. Donc il encourage Eliseo de monter une chorale, et pendant la chorale, il va s'évader. Bon, en même temps, dans un autre plan, dans même un autre plan chronologique, il y a un compositeur mauvais qui cherche à copier ce morceau de musique, le faire passer pour le sien, et voilà, et donc ça s'enchaîne de là. Je vais vous dire que ce n'est pas une fin heureuse. Eliseo retourne dans l'eau comme la matrice d'où il est sorti pour trouver tous ses secrets qui le perturbent. Et voilà la fin du film. Mais c'est très, très beau. Si vous avez l'opportunité de le voir, il faut le voir. Sur cette question de viol incestueux, j'ai re-regardé le film. On voit un type de la taille du père, avec les cheveux qui pourraient être le père, mais avec un pantalon très, très sale et des sandales de paysan. Donc, je ne sais pas où la critique de sens critique a trouvé cette information, mais c'est sûr que ça rend le film encore plus, ça lui donne une dimension. Et la musique dans le film, le Rhapsodie macabre, est très, très belle. Et il faut signaler que c'est le même compositeur qui a fait les musiques originales. Il y a beaucoup de citations dans Neruda, de Penderecki, de Grieg, etc. Il y a beaucoup de morceaux de musique importés de l'œuvre d'autres compositeurs, mais il y a aussi une musique propre au film qui a été faite par Juan Cristobal Maza, qui a fait également la musique de ce film. Alors, moi, je compare ce film un peu, je ne sais pas si vous connaissez Les Chaussons Rouges de Michael Powell de 1948, qui parle de l'obsession de l'art, de l'artiste, etc., que nous avons vu en Neruda, qui écrit à chaque moment, qui parle poésie en même temps qu'il écrit, et qui est complètement identifié avec son art. Dans ce film, on a donc c'est un film, si vous voulez, un peu moins réussi que Neruda, mais ça traite frontalement du problème de l'artiste, qui n'arrive pas à faire une composition digne du nom, de l'artiste frustré, hanté par ses souvenirs. Et aussi, c'est un film de fuite, psychologique, parce qu'il ne veut jamais, il n'est jamais capable de faire ressurgir ce souvenir néfaste qui l'habite. Et aussi, voilà, je les trouve un peu similaires. Fuite, le voyage à partir de l'asile que veut faire son coprisonnier. Et voilà. Donc, je vais égrener les films en faisant des remarques générales. Le film suivant, donc de 2008, s'appelle Tony Manero. Je pense que vous avez entendu ce nom. C'est le nom du personnage principal dans La fièvre du samedi soir avec John Travolta. Et nous avons ici un personnage glauque qui habite un quartier de Santiago et qui est obsédé. Alors, c'est un artiste pervers, obsédé par un autre artiste qu'il veut imiter dans sa vie. Donc, le film se passe dans une semaine. La semaine qui s'écoule entre le moment où, pour un concours de sosie à la télévision, il reçoit un costume blanc de style John Travolta et il se prépare pour le concours de sosie qui aura lieu la semaine suivante. C'est un homme de 52 ans, joué par Alfredo Castro, qui est l'un des acteurs récurrents chez La Raïne. Et c'est un tueur, c'est un menteur. Il veut un téléviseur. Il voit un téléviseur chez une vieille dame chez qui il est entré en faisant semblant de l'aider parce qu'elle a été attaquée peut-être par des jeunes, peut-être par des policiers. Nous sommes maintenant sous le régime de Pinochet. Et c'est un monde littéralement sauvage. Donc, il la tue, mais en la giflant. C'est une scène horrible pour son téléviseur. Il tue le couple qui gère le cinéma local quand ils osent mettre autre chose que la fièvre du samedi soir. Et il fait partie d'une troupe de théâtre local dans un petit quartier de Chile où il s'occupe à refaire vivre sur scène certaines scènes de danse de John Travolta dans la fièvre du samedi soir. Donc, pour avoir une boule de disco, il prend la balle de football d'un enfant de la troupe de théâtreux et il casse un miroir et il colle bout par bout tous les miroirs autour de du ballon de football pour faire une balle disco. Et voilà, bon, c'est un personnage absolument haïssable et il métaphorise Pinochet, le régime de Pinochet, par son manque de morale et aussi par son identification avec la civilisation américaine. Voilà, à la fin du film, on voit qu'il ne gagne pas le concours, mais il prend place dans le siège derrière le gagnant et on se demande si le gagnant qui a obtenu un blender va survivre pour longtemps encore. Un peu de la scène est en vert et le film nous conduit à le suivre dans ses efforts herculéens pour se procurer ces briques de verre. Voilà. Et aussi dans le troupe est un homme plus jeune qui a également été choisi pour faire partie du concours de la télévision. Et juste pour vous dire combien il est mauvais, Raoul, ce personnage. Ils habitent ensemble dans le même complexe et ils font partie de cette troupe. Chacun a son costume blanc. Ils se vident sur le costume le jour revenu. Ils se vident sur le costume de son copain qui va également concourir. Et voilà, et ce qu'il fait en plus de ça, il appelle la police politique pour le questionner. Donc, comme ça, il ôte un concurrent de la manière la plus affreuse possible. Pas affreuse, mais c'est pas fatal, il ne l'a pas tué, mais c'est un homme horrible, donc qui est présenté comme un citoyen de l'époque de Pinochet, chilien. Donc, il y a un film 2 ans plus tard qui s'appelle Santiago Postmortem. 73, c'est l'année où Pinochet est venu au pouvoir. Et ce film est très intéressant par rapport à Neruda et Jackie parce que c'est un biopic, une sorte de biopic. Le personnage principal a un nom. Et il a trouvé, il a appris l'existence de ce personnage dans des archives. Et donc, l'histoire du film, c'est un employé des services d'autopsie, un médecin légiste de la ville, et qui est présent alors que les corps, les cadavres s'amoncellent. Et avec ses collègues, ils arrivent sur un cadavre qui est le cadavre du président Allende. Et il y a un différent. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a suicidé? Et ça, c'est le grand problème du film, au fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Allende? L'autre histoire du film est une histoire d'amour, parce qu'il a une fiancée, entre guillemets, qui est dans une troupe de théâtre de quartier, similaire à celui de Tony Manero. Le thème de l'artiste est en sourdine dans ce film, alors que le thème politique est très, très prononcé. Il tombe amoureux de cette dame qui est sa voisine. Elle le trompe, elle l'humilie. Et finalement, quand elle se renferme dans une pièce de sa maison à lui avec son amant, il est décidé et il ferme les portes et il fait une montagne de meubles contre la porte. OK, l'amant qui est plus fort n'est pas là, c'est juste la dame dans cette pièce avec tous les meubles empilés sur la porte. Après 7 jours, elle meurt de faim, etc. Et quand son cadavre arrive au service de médecine légiste, personne ne bronche. Un de plus, un de moins. Qu'est-ce que ça peut faire en ce moment où il y a énormément de cadavres dans la ville de Santiago? C'est un film très, très noir qui est fait avec des focales de l'époque. Que selon Larraín sont les mêmes qui ont été utilisées par Tarkovsky pour donner une impression un peu décalée, très très glauque, et il est absolument terrifiant aussi parce que c'est la peinture d'un monde de dictature où tout peut se passer, il n'y a pas de loi. Il y a une loi, il y a la règle passée vers le bas depuis le haut. Mais il n'y a pas de libre arbitre et on ne peut pas vraiment croire ses yeux de croire qu'on a tué le président Allende. Il y a une citation. Alors, c'est une citation qu'il a fait à la British Film Institute, et c'est ma traduction. Et pourquoi il a choisi d'élaborer son film à partir d'un personnage inconnu? Donc, il a rencontré le fils de ce personnage, mais il n'a pas de détails sur le personnage. C'est comme un personnage de fiction. Et il a donc, son décor a été la salle d'autopsie. Et c'était la même table qui a servi pour l'autopsie d'Allende. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, c'est le début d'un biopic. Et voilà, je vous le lis. Pour moi, c'était le point de départ, donc de choisir ce personnage. Je me rendais compte que cela pouvait être un point de vue intéressant. Ce type, dans les coulisses, personne ne le connaît. Il n'intéresse personne, mais il y était. Parfois, des gens très ordinaires, invisibles dans la société, arrivent à participer à ces événements majeurs de l'histoire. Je voulais voir ce qui s'est passé à travers ces yeux-là, plutôt que par les yeux des protagonistes. Okay? Donc, c'est un point de vue et on voit que Neruda a été écrit par un dramaturge qui s'appelle Guillermo Calderón, qui a également écrit une partie de El Club. Et j'ai trouvé que le texte était particulièrement excellent dans ce film. C'est dommage que je ne parle pas espagnol, mais même à partir des sous-titres, la grâce et la profondeur du texte sont absolument, avec la musique, ça suffit presque, mais aussi les couleurs, les travelling circulaires, la multiplicité des cadrages pour une même conversation, ces détails qui sont en partie dus au directeur de la photo qui s'appelle Sergio Armstrong, qui n'était pas présent pour Fuga et qui n'était pas présent pour Jackie, mais qui autrement a filmé tous les films de Larraín. Le prochain film, c'est très gay, il s'appelle No. Et c'est un biopic aussi sur un publicitaire, René Saavedra, qui a fait le jingle pour le parti politique opposant Pinochet pendant le référendum, qu'il a déchu de son pouvoir, qu'il a empêché de se représenter. Et c'est un film joyeux qui parle d'une époque d'il y a 30 ans et où il a essayé de joindre, comme il a fait dans Jackie, des pellicules d'époque avec des pellicules de maintenant et créer une atmosphère qui était absolument, on peut dire, biographique, mais enfin fidèle à l'époque. Donc, nous transporter dans le monde d'alors. Ce film est très joyeux parce que les bons gagnent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il sera donc montré à l'Utopia pour une seule fois. Ça fait partie d'une soirée. Et c'est le 3 février à 20h15. Mais ce qui est également intéressant dans cette page de la Gazette, c'est le fait qu'il y aura au TNBA une performance d'un monologue qui est joué à Santiago depuis 2014 avec Roberto Farias, qui est un acteur sublime. Et il va être présent au TNBA pour faire ce monologue de 55 minutes qui a été adapté et c'est mis en scène par la Reine. Et ça a été adapté par... depuis un film qui s'appelle El Club, dont je vous parlerai dans une minute. On passe donc par Profugos, encore une fuite, une histoire de fuite, qui est une série télévisuelle donc, qui a été mise en scène par la Reine. Donc, El Club, un film de choc. Alors, à partir de Fuga, tous ces films ont été primés dans différents festivals européens. El Club est très, très dur, très difficile, mais c'est une poésie noire qui est absolument hypnotisante. Quelle est l'histoire ? C'est une maison qui contient des prêtres pédophiles qui ont été, c'est pas tout à fait en prison, mais ils ont été écartés. Pour qui ne, et ils n'ont pas été donnés à la justice civile. C'est ça le cœur du problème. Et ils s'amusent pas mal. Ils ont un lévrier qui font concourir dans des courses de lévrier. Et voilà, il y a une religieuse qui a été éjectée de son ordre, on ne sait pas. Comment, mais par ses connexions, elle a eu ce job, elle s'occupe des six prêtres. Alors, il y en a un qui était prêtre militaire et lui a écrit un carnet avec tous les crimes des militaires. Donc, on veut qu'il ne soit pas présent dans une ville où il y a des journalistes et machin. Ils sont là. Et un jour arrive, et donc ça, c'est l'acteur, le merveilleux acteur Roberto Farias, un jeune, très perturbé, qui fait une sorte de poésie noire sur tous les sévices qu'il a subis, tous les actes, tous les actes sexuels qui ont été imposés sur lui, enfant. Et il se plante devant la maison, ce qui fait que l'un des prêtres, qui était celui le plus concerné par ce cas, se tue avec un revolver. Évidemment, ils ne sont pas censés avoir un revolver. Et il y a, je crois qu'il est jésuite, qui vient rechercher la situation et trouver ce qui s'est passé. Bon, finalement, les gens du village ne savent pas pourquoi ces hommes sont là. Mais après un moment, et l'aboutissement de l'histoire, c'est qu'ils vont faire accuser ce jeune homme d'avoir tué tous les lévriers du village, ce qui fait qu'il soit tabassé par tous les villageois. Et quelle sera la punition ? Leur punition sera de vivre avec lui, chez lui. et parce qu'il c'est une sorte de poète. Je l'inclus dans la catégorie des artistes de la Raïne. Et c'est une sorte de poète, mais son monologue est composé de la liste. El Club, un film merveilleux et très très noir, parce que, enfin voilà, on comprend pourquoi ils voudraient le sortir de là, parce que jour et nuit, ils vont avoir ces doléances. Et puis voilà, on a des prêtres criminels, une nonne criminelle et le très beau jésuite qui fait ce qu'il peut. Voilà, et c'était le dernier des premiers films de la Raïne. Nous arrivons maintenant à Neruda et Oscar Pelluchonneau. Alors, Oscar Pelluchonneau, vous avez lu qu'il n'existe pas, que c'est qu'il vit dans l'imaginaire de Neruda. Mais au fait, Oscar Pelluchonneau, et certains journalistes l'ont remarqué, il a bel et bien existé. Il y a un problème. Il était chef de police en 1952 pour un seul mois, et pas à l'époque du film en 1948. Donc c'est encore une petite mention biographique un peu absurde de la part de la Raïne qui nous fait suivre une fausse piste ou être dans le doute. Et voilà, donc voilà les films. On peut voir dans ce film qui, pour moi, américaine, est peut-être moins intéressant parce que toute la documentation que le film présente m'est trop familière. Et le film, la photo est absolument extraordinaire et les fusions des pellicules anciennes et des pellicules modernes sont magistrales. Et Natalie Portman est formidable parce qu'elle joue un personnage qui avait un accent et une façon de s'exprimer, une voix très faible et très, très, très particulière. Elle y réussit très, très bien. Et on la voit en artiste, au fait, en train de façonner la légende de son mari. On la voit en train de faire une visite de la Maison Blanche. En historienne, elle a bien retapé, c'est-à-dire elle a dépensé une fortune pour faire venir des meubles d'époque et les meubles d'origine dans la Maison Blanche. En même temps, elle a écrit un guide de la Maison Blanche dont les revenus ont payé ce qu'elle ses achats. Et c'est elle qui a fait le rapprochement entre les deux années de la présidence Kennedy et Camelot, le château du roi Arthur, qui était présenté dans une comédie musicale de 59, je crois. Et on le voit supprimer l'information qu'elle fumait. Le journaliste qui vient l'interviewer ne doit pas écrire cela. Et elle crée le mythe de son mari et de sa famille. Et c'est intéressant, c'est extrêmement bien fait. Si Neruda, c'est la vie foisonnante, colorée, Jackie, c'est vraiment le tombeau. Et le scénario a été écrit par un Américain, au fait. Et l'idée du film a été celle de Darren Aronofsky, un cinéaste américain, dont le nom a été lié à celui de Natalie Portman pendant très, très, très longtemps. Et si on était de mauvais esprit, mais pas trop, on pourrait voir le film comme les biopics sont souvent primés, que ce film comme une opportunité pour Natalie Portman de devenir meilleure actrice pour les Oscars. Au fait, elle a été nommée. La mise en scène est excellente, c'est très très beau et c'est triste. Je dois dire que je ne garde pas, là je peux vous parler de la scène ou de n'importe quelle scène dans Neruda où il dit sa poésie et les autres le disent avec lui. Et j'ai de l'émotion en le disant. Je n'ai pas trouvé cette émotion qui est tellement particulière, tellement intense dans Neruda, dans Jackie. Mais c'est un très beau film. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée.